Actualité avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est temps pour l'ONU de reconnaître ses insuffisances et de réformer la manière dont elle fonctionne. Voilà les propos d'Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général des Nations Unies, qui a pris ses fonctions dimanche 1er janvier. En tout cas, l'ancien Premier ministre portugais ne cache pas ses ambitions. Il veut un changement, voire même une rupture avec Ban Ki-moon, à qui on a souvent reproché son manque d'initiative, son manque de charisme. Il faut dire que Ban Ki-moon laisse à son successeur une organisation qui est discréditée, notamment par la guerre en Syrie. Antonio Guterres, en tout cas, a prévenu, l'ONU doit se préparer à changer, particulièrement dans les domaines des opérations de maintien de la paix. Il souhaite moins de bureaucratie. Il déplore par exemple qu'il faille 9 mois pour déployer des missions sur le terrain. Il plaide pour davantage de médiation, de diplomatie préventive. Il souhaite également des évolutions dans l'aide au développement durable. Vous le comprenez, Antonio Guterres veut donner donc un nouveau souffle aux Nations Unies. On pense évidemment à Kofi Annan, l'un de ses prédécesseurs, qui lui aussi avait voulu en son temps réformer les Nations Unies, réformer même le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors justement, quelle image avez-vous des Nations Unies, du Conseil de sécurité? L'organisation est-elle aujourd'hui crédible? Faut-il réformer cette organisation? Nous en parlons ensemble durant les 20 prochaines minutes. 33 9 680 693 70. Beaucoup de réactions déjà sur les réseaux sociaux. Il y a Mamadi qui nous dit sur Facebook: comment pouvez-vous encore poser cette question si l'organisation est encore crédible? Elle est juste un instrument des grandes puissances, elle ne sert qu'à défendre leurs intérêts. Godet se dit favorable, lui, à la réforme de l'ONU, surtout en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix qui ont démontré leurs limites. Godet nous parle également du veto, du droit de veto utilisé par les membres permanents du Conseil de sécurité, qui paralyse, dit-il, le fonctionnement de l'organisation. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous vous donnons la parole. Christian, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Bangui en Centrafrique et vous êtes pour une réforme de l'ONU.
Oui, moi je suis pour une réforme de l'ONU, une réforme en profondeur, mais une réforme qui commencerait d'abord par le Conseil de sécurité, qu'il soit un peu plus démocratique, parce qu'aujourd'hui nous avons un Conseil de sécurité qui est toujours sur le modèle de 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, où les plus forts, ceux qui avaient remporté la guerre, continuent de diriger ce Conseil de sécurité, au détriment des réalités géopolitiques actuelles, notamment le rôle de l'Afrique, le rôle des pays émergents dans le monde.
Mmh. Alors, les pays émergents font partie du Conseil de sécurité. Vous faites référence évidemment aux 5 pays qui disposent du droit de veto. Ce que vous demandez dans cette réforme, Christian, c'est que d'autres pays puissent avoir le droit de veto ou qu'on supprime tout simplement ce pouvoir?
Non, moi je souhaiterais tout simplement que le droit de veto soit supprimé et que les voix de tous ces pays membres du Conseil de sécurité est le même poids, mais j'aimerais également que le statut de membre permanent puisse être ouvert à d'autres nations qui représentent aujourd'hui les forces émergentes sur la planète. Je parle de certains pays d'Amérique latine, notamment le Brésil ou l'Argentine, je parle de l'Inde, je parle de pays africains, de manière à ce que ce Conseil de sécurité soit plus démocratique.
Oui.
Et enfin, je voudrais aussi que je souhaite, je dis pas que je voudrais, mais c'est un vœu pieux, qu'au niveau de la réforme, elle se fasse aussi au niveau de la fonction du secrétaire général elle-même, cette fonction, puisqu'aujourd'hui, comme nous le disions tout à l'heure, il est plus secrétaire que général. Et ça, c'est peut-être aussi un des handicaps de l'institution.
Antonio Guterres, reconnaît lui-même que le secrétaire général de l'ONU n'est pas le maître du monde et qu'il est finalement tributaire du bon vouloir des 193 pays membres. Vous parliez notamment de l'Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde. L'Inde réclame évidemment une place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Japon, qui est le deuxième contributeur financier de l'ONU, réclame également une place de permanent. L'Afrique, évidemment, réclame au moins deux places. Vous savez que l'Afrique a débattu pendant des années au sein de l'Union africaine s'il fallait demander aux Nations Unies une place ou deux places. Finalement, le consensus qui avait été trouvé à l'époque, c'était d'avoir au moins deux pays représentés de façon permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous poursuivons le débat. Merci, Christian, de nous avoir appelé. Bonne journée à Bangui. Abou, bonjour.
Oui, bonjour Wal, bonjour RFI.
Vous êtes en Côte d'Ivoire, on vous écoute.
Oui, je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Grand Bassam. Bon, alors moi, mon intervention, d'ailleurs, au niveau de l'image de l'ONU ici en Côte d'Ivoire, nous, on a une image plus ou moins positive parce que l'ONU, quand même, nous a permis d'avoir des élections et nous avons un président et le pays est en paix aujourd'hui. D'accord. Maintenant, la deuxième chose, au niveau des réformes. Moi, à mon sens, les réformes ne devraient pas être de supprimer carrément les droits de veto, comme l'a dit mon prédécesseur. Je suis d'accord avec lui sur plusieurs points. Mais alors, moi, je souhaiterais que dans le Conseil de sécurité de l'ONU, il n'y ait pas de pays membres permanents, mais des postes permanents.
C'est-à-dire oui.
Par zone d'influence géographique, par exemple l'Afrique, vous conviendrez avec moi que 80% des interventions de l'ONU se font en Afrique, alors que l'Afrique n'est pas présente. Donc, un poste pour l'Afrique, un poste pour l'Amérique du Nord, un poste pour l'Amérique du Sud, un poste pour l'Orient, le Moyen-Orient, parce que vous savez, avec les nouveaux enjeux de terrorisme, etc. Donc, tous ces pôles géographiques doivent être présents au sein du Conseil de sécurité. Parce que lorsqu'il y a des pays... ça va vouloir dire des intérêts à défendre et des intérêts, et donc l'ONU sera toujours bloquée par ces actions de ces pays grands contributeurs.
Donc, pour vous, il ne faut plus de pays membres permanents. Il faudrait que chaque zone ou région du globe puisse avoir un représentant permanent.
Exactement, voilà ma pensée.
Droit de veto ou pas? Parce qu'on a vu, par exemple, disiez que les membres permanents du Conseil de sécurité votaient les résolutions en fonction de leur centre d'intérêt. On a vu, par exemple, concernant la guerre en Syrie, la Russie, pour soutenir son allié Bachar el-Assad, a usé de son droit de veto à 6 reprises pour s'opposer à des résolutions qui étaient présentées soit par les Américains, soit par les Français ou les Britanniques.
Oui, mais il faut reconnaître qu'il faut forcément le droit de veto. Il faudrait que ça existe. Sinon, vraiment, ce serait de n'importe quoi. Enfin, excusez-moi du terme, ce n'est pas bon à dire à l'antenne, mais ce ne serait pas bon s'il n'y a pas de droit de veto. Donc, il faut des droits de veto, mais il ne faut pas que des pays puissent influencer. Il faut que ce soit des zones d'influence qui puissent influencer.
En tout cas, la France soutient une réforme du droit de veto. Alors, la France ne plaide pas pour la suppression du droit de veto, mais pour une réforme, c'est-à-dire que les 5 pays membres permanents, donc la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine, s'engagent volontairement et collectivement à ne plus recourir au veto lorsqu'une situation d'atrocité de masse est constatée. Voilà ce que stipule le projet rédigé par la France. On verra évidemment si ce projet sera présenté et s'il sera accepté ou pas par les autres membres permanents. Des réactions sur Facebook. Ali nous dit il doit y avoir des réformes. Il est incompréhensible que 5 pays décident de l'avenir du monde. Dépôt nous écrit que depuis Boutros-Ghali, on parle de réformer l'ONU. Tout le monde reconnaît que cette organisation a des insuffisances, mais les pays qui détiennent le droit de veto ne veulent pas que les autres puissent disposer de ce pouvoir, et cela crée forcément des déséquilibres. Et c'est vrai que les Américains refusent de mettre de côté le droit de veto. Les Russes s'y opposent également. Les Russes qui jugent inacceptable toute limitation des prérogatives actuelles des membres permanents. On repasse au standard 33 9 693 693 70. Mamie Soa nous appelle de Londres. Bonjour à vous.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons.
Oui, alors moi je suis fonctionnaire dans une des agences des Nations Unies qui s'appelle le PNUD, et je dirais que la marge de manœuvre du secrétaire général des Nations Unies dépend de la nature des réformes qu'il veut mettre en œuvre. Alors, il faut distinguer entre des réformes plutôt politiques et des réformes plutôt administratives.
Mais là, à entendre les auditeurs qui se sont exprimés depuis le début de l'émission et à lire tous ceux qui ont posté des commentaires, la majorité des gens attendent des réformes politiques, notamment une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Oui, et en fait, ce sont des réformes qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre parce qu'elles dépendent de la volonté politique des États membres qui sont les décideurs au sein du système des Nations Unies. Mmh. Alors qu'il y a des réformes donc de type plutôt administrative qui ont à voir avec le fonctionnement interne du système qui, elles, dépendent plus de l'impulsion du secrétaire général. Mmh.
Donc vous êtes en train de nous dire, si je comprends bien, Mamie Soa, que oui, il y a des réformes, mais elles sont avant tout administratives, ce qui permet donc de faciliter, de travailler peut-être plus rapidement. L'un des objectifs d'Antonio Guterres, c'est qu'il y ait moins de bureaucratie aux Nations Unies. Je ne sais pas si... vous nous appelez, donc j'imagine que même travaillant au PNUD, vous pouvez vous exprimer. Vous trouvez qu'au PNUD, il y a trop de bureaucratie, que les choses sont trop lentes, qu'il y a trop d'administration? Ou pas.
Ce sont des commentaires que les partenaires d'exécution des agences font souvent en rapport avec les différentes agences du système des Nations Unies. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela fait plusieurs années que le système donc a une initiative qui s'appelle One UN, une seule agence, une seule organisation des Nations Unies, et une initiative liée à cela qui s'appelle Deliver as One. Exécuté en tant qu'une entité.
Ouais.
Parce que il y a effectivement beaucoup d'agences. Il y a, par exemple, si on prend le domaine du VIH-SIDA, par exemple, que le public connaît, vous avez le PNUD qui intervient, l'UNICEF qui intervient, le FNUAP, l'OMS. Donc, il y a plusieurs agences. Et la réforme que Ban Ki-moon a portée, c'était de faire en sorte que les agences travaillent beaucoup plus ensemble, qu'il y ait moins de duplication d'efforts et qu'elles communiquent ensemble.
Donc vous nous dites que Ban Ki-moon, malgré l'image qu'il dégageait, quelqu'un d'assez, on va dire, introverti, avec peu de charisme, il a réussi malgré tout à réformer administrativement les Nations Unies. Merci de nous avoir appelé de Londres, Mamie Soa. Je précise qu'Antonio Guterres, lorsqu'il était à la tête du HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, lui aussi avait déjà à l'époque réformé cette organisation. Il avait notamment réduit les effectifs qui étaient pléthoriques, des effectifs qui étaient basés à Genève. Donc, il a licencié du personnel, mais pour renforcer l'action du HCR sur le terrain, pour augmenter la capacité d'intervention du HCR, d'autant que Antonio Guterres était à la tête de cette organisation lorsqu'a éclaté la plus grave crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Merci de votre réaction et bonne journée donc à Londres. Romain, vous êtes à Ouagadougou, bonjour.
Bonjour Anne.
Alors, quelle image avez-vous de l'ONU? Faut-il réformer l'organisation?
Absolument, je pense que une réforme de l'ONU, ce n'est pas qu'une nécessité, c'est devenu un impératif, je pense. Hein, parce que du machin dont De Gaulle parlait, l'ONU est devenue une gigantesque machine qui, dans beaucoup de domaines, a parfois énormément de mal à se mettre en branle. Et c'est là-dessus je suis tout à fait d'accord avec l'auditrice qui m'a précédé, pour dire que c'est vrai, réformer, il faut déjà saluer l'intention affichée par Guterres, mais il est bien payé pour avoir été un haut dirigeant de l'institution de l'intérieur, il est bien payé pour savoir que tout de suite il prend son intention par le mauvais côté, il sort de excusez-moi l'expression, de se casser les dents, quoi.
Parce que, lui n'a jamais dit qu'il voulait réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. Il lui parle surtout, notamment, de réformer les opérations de maintien de la paix, ce qui lui semble être une priorité.
Et là, je suis tout
aujourd'hui
à fait d'avis avec lui, parce que à vouloir tout de suite parler de réforme politique du Conseil de sécurité, moi, à sa place, je n'y toucherai pas de façon frontale, parce qu'il y a d'autres urgences, je pense, par exemple, notamment les opérations de maintien de la paix, ont vraiment besoin de pouvoir être beaucoup plus opérationnels sur le terrain. Parce que quand tu prends l'exemple de la RDC, l'ONU a un très fort contingent de casques bleus là-bas. Ça n'a pas l'air d'empêcher beaucoup de choses. Hein. Il y a des civils qui se font massacrer encore à gauche et à droite. Le politique à RDC fait à peu près ce qu'il veut. Heureusement, s'ils sont arrivés à un accord, j'espère que ça va s'appliquer et que ça va éviter qu'on tombe dans une guerre civile.
Et on parlera demain justement de cet accord. Justement, Romain, vous parliez de la présence des casques bleus, qui sont très nombreux effectivement en République démocratique du Congo. On a reçu l'appel d'Ardan qui est à Kinshasa. Bonjour Ardan.
Bonjour Annie, bonjour à tous les fidèles auditeurs de la Radio du Monde et bonne année.
Merci, tous nos voeux également Ardan. On a déjà eu l'occasion dans cette émission de parler du mécontentement de la population à l'égard des casques bleus déployés dans votre pays. Je ne sais pas si vous partagez vous-même ce sentiment à l'égard de ces soldats de l'ONU déployés dans votre pays depuis maintenant une dizaine d'années. Vous dressez un bilan plutôt positif ou négatif de l'action de l'ONU par exemple dans votre pays, puisqu'à l'instant Romain disait... Regardez, ils sont sur place en RDC et leur présence n'empêche pas les massacres.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec Romain. Vous le savez tous que le bilan des Nations Unies en RDC est un bilan négatif. Voyez-vous, avec le contingent déployé partout à l'est de la République, nous avons subi des guerres en RDC, notamment le M23, mais sur place, l'ONU, la MONUSCO a été présente, mais nous n'avons pas vu, n'est-ce pas, ce maintien, n'est-ce pas, de la paix au niveau de l'est de la République. Nos populations sont tuées, massacrées, les femmes sont violées, et donc nous estimons que le bilan est carrément négatif. Et à l'époque, j'avais même demandé que la MONUSCO puisse plier et faire bagage et partir, puisque l'armée de la République s'est battue sur terrain pour mettre état de nuire les rebelles à Desnalou. C'est vrai, jusqu'à ce jour, ils sont en train de s'aimer du désordre, mais nous demandons carrément que ces contingents puissent carrément quitter le pays, et la MONUSCO ne fait vraiment pas son travail.
Il y a eu plusieurs manifestations effectivement de la population pour exiger le départ des casques bleus. Alpha sur Facebook nous dit, mais de façon générale, sans parler de la MONUSCO, des casques bleus présents en RDC, il nous dit, il faut donner aux casques bleus un mandat élargi afin qu'ils puissent devenir une force d'interposition et non plus simplement une force qui se contente d'observer les cessez-le-feu.
Je ne suis pas d'avis, je ne suis vraiment pas d'avis avec Anne. Parce que retenez, Juan, la forte présence de la MONUSCO en RDC ne résout pratiquement rien. Je l'ai dit tout à l'heure, que les populations sont tuées. Nous avons, la RDC est infiltrée de partout, mais quel est le rôle, quelle est la mission principale de la MONUSCO et de l'ONU en RDC? Mais c'est le maintien de la paix. Mais voyez-vous, l'Est de la République est quasiment sacrifié. Il y a des morts tous les jours, voyez-vous. Donc il faut à tout prix réduire même cet effectif.
En tout cas, l'effectif est pléthorique. J'ai sous les yeux les derniers chiffres des Nations Unies concernant la MONUSCO. 22 667 personnes déployées sur le terrain. Merci de nous avoir appelé, Ardan. Bonne journée à vous. On va terminer avec Mouna, qui est au Mali. Bonjour Mouna.
Oui, bonjour Juan, comment allez-vous?
Très bien, je vous souhaite une bonne année. Et vous êtes-vous sceptique? Merci. Vous êtes sceptique, vous, sur la capacité d'Antonio Guterres de réformer l'ONU?
Oui, Juan, je disais que même si on amène le pape à la tête du secrétariat des Nations Unies, ce sera le même problème parce que ce sont des exécutants. Donc ce sont des gens qui reçoivent des ordres des cinq pays, des cinq puissances nucléaires décideuses. Donc on ne peut pas dire maintenant à quelqu'un d'aller faire quelque chose qu'on ne lui a pas dit de faire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre de lui-même ou bien écouter un État, par exemple malien, et aller dire à nos casques bleus qui sont au nord, la MINUSMA, d'être une force d'intervention pour pouvoir libérer le nord du Mali. C'est-à-dire qu'il fera ce que les autres lui diront. Donc moi, je crois qu'on doit nous donner une place ou deux même au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'on puisse intervenir. Pour qu'on puisse intervenir et pour qu'on puisse prendre des décisions à l'avantage des pays africains.
Oui, d'autant que sur les 16 missions opérations de maintien de la paix actuellement en cours, 9 se déroulent en ce moment sur le continent africain. Merci à tous de votre fidélité. On sera de retour évidemment demain et nous parlerons demain de la République démocratique du Congo après la signature d'un accord entre la majorité et l'opposition en vue d'organiser la gestion de la transition après la fin du mandat du président Kabila. Kabila. Ce qu'il faut retenir de cet accord, c'est que Joseph Kabila restera en fonction jusqu'à l'élection de son successeur, en principe avant la fin de cette année 2017. Mais on voit bien déjà que la mise en œuvre de cet accord suscite des interrogations. Nous en parlerons tous demain matin. Merci de votre fidélité.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Money, solution de transfert d'argent accessible depuis votre mobile au dièse 144 dièse.
À suivre, Cléredon.